C'est la bande originale sur France Inter et c'est avec Nagui.
Merci Laetitia Gaillet, on vous retrouve tout à l'heure à midi pour d'autres infos. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadourou-Dadi, Morgane Cadignan, Alexis Le Rossignol, Tom Villa, bonjour. Daniel Morin et notre invité, Monsieur Zep.
Bravo, monsieur.
Zep qui vient nous présenter sa nouvelle bande dessinée. Alors, ce ne sera pas du Titeuf, c'est du Zep, c'est-à-dire de la bande dessinée pour adultes. Ceci, il n'y a rien de choquant, parce qu'il nous avait fait déjà du... du sexe. Monsieur Zep, il nous a fait du sexe.
Enfin, un livre avec du sexe dedans.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est plus prudent de dire ça.
Non.
Ce que nous sommes publiés aux éditions Rue de Sèvres, on va parler avec lui de cette bande dessinée très futuriste, alarmiste peut-être, ou positive. On va voir sous quel angle il faut le vivre, le ressentir. Mmh. Extrêmement bien dessiné, intelligent.
Un peu alarmiste.
Ouais. L'idée, ouais. Ouais, mais enfin, tellement
non,
concrète.
Pas que, mais
ça commence.
C'est-à-dire de se dire qu'est-ce qui se passerait si on était tellement assisté par des ordinateurs, si notre cerveau était tellement assisté par des ordinateurs qu'on n'est plus capable de ne rien faire sans que ce soit l'ordinateur qui décide à notre place. Finalement, on n'est pas loin de ce disque dur qui fait tout à notre place. On va en parler avec lui. Mais ça donne quoi comme blind test,
Daniel, Hervé
ouais.
Villard.
Ah ouais.
Pourquoi ce grand vide quand je pense à nous?
Moi je chiale.
Ah ouais, t'es fatigué.
Je peux chialer deuxième fois.
Ouais. Pourquoi
c'est ça la bonne question. Nous, premier point pour Daniel qui chante ça. Qu'est-ce que t'as dit?
Acapulco. Il est resté bloqué sur Elvis.
J'ai un peu bloqué.
Comme un blizzard dans mon cœur.
Tom,
Marianne,
Luan.
Oui.
Léa, ça va.
Cherche le thème.
Bah, c'est nous.
Titre nous.
Ah. Ça fait nous, que des chansons avec nous.
Que des chansons avec nous.
Daniel.
Oui.
Nous.
Oui. Mais qui?
Leïla, Julien Doré.
Joli.
T'as dit nous et c'est le seul que je connais.
Ah, mince.
Nous on s'en fout
ah oui.
De vous. Vous pouvez prendre tout. Tant qu'on est tendre, nous on s'en fout.
Je m'étais pas.
Je pourrais avoir une imitation de Julien Doré.
Qui chante ça?
Morgane Oshi.
Non.
Faut les voir se regarder.
Ah,
bah oui. Sans l'évidence.
Morgane.
Oui. Bah alors, dis-le.
Bah oui, dis-le.
Morgane. Hey, tu vas pas m'engueuler en plus, non?
Ah ouais, c'était bien parti. Hein. Le vendredi, là,
c'est
nable.
C'est joli ça.
Merci pour cette analyse musicale. Ouais.
Chouette ça, c'est sympatoche, dis donc.
Ouais, c'est sympa.
C'est un rôle manœuvre.
Je me le laisse.
La manœuvre. Le...
Allez, on
nous deux
ça.
Contre le reste du monde.
Ouais, allez,
exactement, nous deux contre le reste du monde. Qui chante ça? Alexis, t'es le seul qui peut marquer de points pour l'instant.
C'est vrai?
Ouais.
Non, Tom.
Si, il a marqué Tom.
Ok.
T'as qu'à dénoncer aussi.
C'est le moment.
Le rap est dans un état, nous
oui.
Pas les passes.
Tom.
Oui. Oui.
Big Flo et Olivier.
Ah, réponse incomplète.
Nous aussi on peut le faire. Montrez-les.
Bonjour.
Nous aussi on peut le faire.
Nous aussi. Il y a nous dans le titre de la bande dessinée de Zep. Il y a nous dans le titre de cette chanson qui chante.
Français.
Ouais.
Groupe.
Duo.
On joue à Pyramide en fait.
En trois briques.
C'est dommage.
Catapulte.
Ça s'appelle Nous deux.
Hey. Tu chantes de belles chansons, mais on fait
des choses. Morgane Dims.
Non.
Kinvé.
Non.
Je te prête à d'autres rappeurs, on partage.
Ah oui,
L'amour était physique, les magasins.
Jajou.
Non.
Les mecs font des
qui ça? Kiki.
Jajou.
Jaja.
Momo.
Non.
Franck.
Alexis, VG Dream et.
Non.
Dans la rue, je vois des flashs, ce n'est pas paradis. Les repas, les taxis sont payés par tes
femmes.
Nos sommets intimes, en couverture de voici.
Direction d'assaut.
Nino. 113.
Non.
14.
Attends, attends.
Attends.
J'essaye, hein. Ah, c'est...
Attends, Angèle et...
Non.
Mais non, c'est le duo, ils sont tout le temps ensemble là.
Putain. Non.
Slimane.
Oui,
putain, Slimane, non.
Ah.
Vous l'avez pas, vous l'avez pas. Chaim et Lorenzo, nous deux.
Ah,
alors, tout se joue. Deux points pour Leïla, un pour Daniel, un pour Morgane, un pour Tom. Tout se joue là-dessus. Attention, ça rapporte 3 points à la victoire.
Tom.
Daniel. Leïla.
Qui de nous deux aime.
Aime.
Oh là là là.
Bravo. Ah. Je croyais que t'allais mettre la femme. Ah oui. Nous étions deux, la femme.
Victoire de Tom Leïla et merci d'accueillir Zep.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Bienvenue Zep, on est ravis de vous accueillir pour cette bande dessinée futuriste, avant-gardiste. On n'est pas tous d'accord sur le optimiste ou pessimiste de cette bande dessinée. Le point de départ étant, il y a des êtres humains...
Augmentés.
Exactement, comme une espèce de disque dur supplémentaire qui est rajouté. Donc ils ont une mémoire, une capacité de télécharger toutes les encyclopédies en quelques minutes. C'est même pas la peine d'apprendre. Et donc là, on tombe dans la... paresse, la fainéantise, et c'est l'ordinateur qui décide pour nous, et on devient un peu teubé.
Voilà, c'est ça. C'est toute la question de l'humain. Qu'est-ce qu'on est en train de raconter avec l'humain augmenté? Je suis parti d'un constat assez simple, c'est que moi j'ai mon téléphone portable dans ma poche, et j'ai cessé de mémoriser plein de choses, parce que si on me pose une question sur qui a fait tel film, ou quel est le numéro de téléphone de mon fils, ou...
Vous avez raison sur le numéro de téléphone. Avant, on avait le numéro de téléphone de la maison ou des parents, et là maintenant...
On ne mémorise plus rien, donc il suffit, on a ça, on a une espèce d'exo-cerveau au bout de la main, comme ça, et c'est juste d'imaginer que d'ici quelques années, ce cerveau supplémentaire, on l'aura avec un implant et on aura la possibilité d'avoir accès à toutes ces infos directement par la pensée.
On l'a déjà avec le vaccin et la 5G, si je peux me permettre. Enfin, moi,
tu captes alors la 5G, mais depuis le vaccin. Moi, je suis juste aimanté à l'ascenseur quand je rentre dedans, mais sinon, je capte pas tout très bien. C'est parti de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire si vraiment notre intelligence était totalement artificielle.
Ouais, c'est ça. En fait, je suis parti d'une recherche qui est actuellement en cours, qui s'appelle un projet Human Brain, et c'est une équipe de chercheurs du monde entier qui sont en train de modéliser un cerveau humain. Donc, ils sont en train de faire une réplique numérique d'un
cerveau. Rien que ça, ça fait peur. Et quand vous lisez ça, ça vous fait peur ?
Moi, j'ai entendu ça comme j'ai entendu ça à la radio un jour, et pour moi, c'est de la SF de raconter ça. Donc, j'ai été chercher des infos là-dessus. J'ai pas compris grand-chose parce que c'est quand même très
pointu.
Et j'ai contacté un des professeur qui fait un peu de vulgarisation, qui était en charge du projet, qui s'appelle Pierre Magistretti. Je suis allé le bombarder de questions et l'interviewer. Et en fait, c'est un projet qui est censé être terminé en 2024. Donc, on n'est pas en train de raconter... Ouais. C'est pas Star Wars, hein, c'est tout proche.
Mais pardon, quand vous intéressez au sujet, est-ce que dès le début, vous vous êtes dit il y a de quoi faire une bande dessinée, ou c'est simplement à titre personnel que vous étiez presque inquiet de ce
sujet? Ça m'intéresse en tant qu'auteur.
D'accord.
Il y a une histoire à raconter là autour.
Et en tant qu'être humain, ça vous fait peur?
Ouais. Ouais, c'est ça. Je suis partagé entre deux. En tant qu'auteur, je trouve ça fascinant. Et puis autrement, si je réfléchis, je me dis putain, c'est incroyable. On est en train de déléguer complètement notre intelligence à des machines.
Et vous mettez votre fils en scène. C'est la manière de vous soulager de cette inquiétude.
c'est-à-dire que c'est sa génération que ça va concerner plus que la mienne.
Carrément.
Et puis, c'est aussi parce que moi, j'ai toujours besoin, dans ces albums plus réalistes, qui sont pas avec mon dessin Titeuf, qui est mon dessin plus naturel, d'avoir des gens qui posent pour moi. Donc, j'emmerde un peu mon entourage à dire, est-ce que tu es d'accord de poser pour tel ou tel personnage? Et ils sont là.
Ils posent vraiment? Non, c'est une blague.
Non, ils posent vraiment, ouais. Ouais.
Mais c'est-à-dire que comme on voit dans les films, voilà, pour les beaux-arts, c'est-à-dire vous mettez sur une chaise
je fais mon storyboard et je monte, je dis ouais, j'ai besoin de telle pose, et donc je fais la pose et je fais vite un dessin, et tous les deux jours je viens, je dis hey, salut, tu peux vite tenir une carafe comme
ça. Je comprends pas, vous avez pas
tu fais quoi, tu peux vite nager avec une baleine s'il te plaît, parce que j'ai...
Mais vous ne faites pas poser Titeuf, une fois que vous avez le modèle, vous savez à quoi il ressemble.
Il vient de comprendre beaucoup de choses.
Non mais ça me semble curieux.
Elle est choquée.
Ça me semble curieux d'un coup de demander à poser, alors que vous êtes dessinateur, que vous pouvez imaginer une fois que vous avez les grands traits, les grandes lignes.
Avec mon dessin, quand c'est Titeuf, effectivement, je fais pas ça, parce que déjà, il y a pas beaucoup de gens qui ont la même morphologie.
Si, vous!
Non, mais vous pouvez prendre une petite peluche.
Mais non, mais c'est lui, Titeuf!
Il a une petite peluche, peut-être, à la maison.
Non, non, mais là, c'est un dessin que je possède plus, donc ça va. Mais ce dessin réaliste que j'utilise pour ces albums, ouais, c'est un dessin que j'ai toujours fait d'observation. Donc j'aime bien dessiner des gens. Si j'ai un carnet, je vais dessiner les gens qui sont autour de moi. Mais je trouve que le dessin est plus naturel. Les personnages jouent mieux s'ils posent, plutôt que si je dessine autrement. On a toujours, c'est quand même un truc de répétition la BD. Donc on chope une espèce de paresse. On va dessiner toujours de la même manière des gens qui marchent, des gens qui courent, qui montent les escaliers. Alors que si quelqu'un pose pour vous, la pose elle ressemblera à aucune autre. Donc c'est aussi plus beau, quoi.
Pour on va continuer évidemment à parler du dessin, du bleu. Le bleu est très présent dans cette bande dessinée. Quelle est sa signification ou
En fait, j'utilise vraiment la couleur comme la musique dans mes bandes dessinées, enfin dans ces bandes dessinées là.
Le bleu est souvent là dans vos bandes dessinées pour adultes, hein,
Oui, parce que j'utilise des tons monochromes, donc bleu, brun, rouge. Des gris colorés pour figurer chaque fois l'ambiance de la séquence et puis pour montrer qu'on passe d'une séquence à une autre. Il y a un truc dans la BD, c'est que on mettait souvent des narratifs avant des petits blocs narratifs. On disait cependant, alors que le lendemain, voilà. Et moi, je trouve ça un peu
didascalie, quoi.
C'est un côté un peu désuet qui est chou, mais qui est un peu ringue. Moi, j'aime pas beaucoup. Donc, pour éviter ça, j'utilise la couleur pour montrer qu'on a changé de scène.
C'est pas une technique d'homme augmenté, ça, d'utiliser.
c'est un petit peu une technique d'homme augmenté. C'est percé à jour.
Zep est notre invité. Ce que nous sommes, publié chez Rue de Sèvres, extrêmement bien dessiné, passionnant, mais il y a une histoire d'amour aussi. Il y a pas que le côté totalement futuriste, même si c'est dans 2 ans. Donc
c'est flippant.
C'est un peu flippant. Non, mais moi, j'avoue, ça m'a fait un peu peur.
Ok.
Non, ça m'a fait un peu peur. Vous m'avez dit tout à l'heure, non, faut pas, c'est quand même positif, mais.
Ouais, tu pleurais, Nagui, quand même.
C'est vrai.
On a beaucoup hésité à vous inviter, surtout.
Mais ça peut être très positif. Les premières pages donnent envie, en se disant que, je sais pas, on va me charger 15 langues étrangères dans la tête.
Oui, ça fait rêver.
Eh bien, bien sûr.
Concentre-toi sur le français, déjà.
En 2 secondes.
Alors qu'il y a l'espéranto,
on va me recharger le français dans la tête. C'est fait en 5 minutes. Et ça veut dire, et je me dis, bénéficier de tout ce savoir, ça peut aussi me donner le temps de penser à autre chose, parce qu'on pourrait aussi le voir comme ça, se dire qu'une fois que je suis débarrassée de la corvée de l'apprentissage, qui est intéressante, mais que je pourrais cantonner à un champ d'investigation en particulier, je sais pas, la nature, les arbres, le reste, on me le charge dans ma tête, et puis j'ai tout le loisir de penser, de créer des choses, ça peut être séduisant.
Vous avez les arguments des grands défenseurs, c'est justement, ils disent, on vous mâche le travail, vous pourrez faire autre chose, on vous décharge de tout ça.
Il peut y avoir une dimension créative derrière.
Je pense justement pas, parce que si notre cerveau n'apprend pas à apprendre, il devient paresseux. En
fait. C'est une gymnastique, c'est ça.
Comment on pourrait apprendre quelque chose et
mais ça y est, lié.
Non, mais moi, ça me ferait rêver. L'idée d'évacuer toute la 15 ans de scolarité en 3 minutes,
les maths,
génial.
Oui, mais pardon.
Les maths, oui.
Mais le libre arbitre aussi, quand on apprend. On choisit aussi ce qu'on apprend.
Mais regarde, ça crée des démocraties, après c'est le bordel. c'est vrai.
Non, mais si j'ai envie de passer ma vie à apprendre une seule discipline, puisque le reste a été chargé, ça me laisse tout loisir.
Mais t'es prof, t'as pas le droit de dire qu'il n'y a pas le plaisir d'apprendre.
Mais j'aurai le plaisir d'apprendre, mais sur un champ en particulier. Par exemple, je décide de consacrer toute ma vie à l'apprentissage du théâtre, des textes classiques, mais en attendant, on m'a chargé toutes les maths, toute la physique, tous les trucs dont je pourrais éventuellement avoir besoin, plein de langues étrangères, et j'ai tout loisir de continuer à apprendre.
Ce à quoi Zep répond à une problématique dans le livre, c'est réservé à une élite. Tout le monde n'y a pas accès. Et il y a comme une espèce de je sais pas, de camp ou de...
C'est-à-dire qu'un des premiers écueils de ce cerveau numérique, c'est qu'il a une consommation en énergie phénoménale. Quand j'ai rencontré le professeur Magistretti, c'est une des premières choses qu'il m'a dit. Il m'a dit, votre scénario, c'est possible, hein, c'est pas du tout fou d'imaginer ça. Mais le problème principal qu'il y a, c'est qu'un cerveau numérique, le modèle qu'ils sont en train de préparer, il consomme l'énergie d'une ville pour un cerveau.
Wow.
Donc c'est assez improbable.
Donc, il ne faut pas démonter les éoliennes, quoi. C'est... Voilà.
Donc soit on trouve une nouvelle source d'énergie incroyable, soit ce sera réservé à une toute petite partie de la population, et c'est le cas dans mon histoire. Donc une petite partie qui en plus accapare toute l'énergie de la planète.
Mmh. Vous pensez que les Elon Musk et autres milliardaires à la tête des GAFAM travaillent à ce genre de projet?
Bien sûr, il y a déjà des salons de l'homme augmenté en Californie où les gens se retrouvent. Alors c'est la foire ou n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des charlatans absolus et en même temps de la recherche scientifique de pointe. Et il y a déjà la possibilité d'avoir des implants crâniens qui permettent de piloter, par exemple, une prothèse pour les gens qui se sont fait greffer une main ou une jambe. Donc ça, c'est absolument génial, je trouve. Mais on peut tout à fait imaginer que dans une continuité très, très rapide, on aura un implant crânien qui nous permet d'accéder à Google, par exemple.
C'est comme un chirurgien esthétique qui, quand elle est réparatrice, est absolument formidable, et quand elle est faite pour
ça donne des trucs un
abuser,
peu débordement fantastique.
Ça donne des trucs un peu bande dessinée, mais en live. Zep signe donc ce que nous sommes, ou ce que nous serons d'ailleurs, mais ce que nous sommes, là, il n'y a même pas le futur, ni même le conditionnel. C'est un constat, on va continuer d'en parler. On est ravis de vous accueillir parce qu'on vous aime, évidemment, c'est le cas de tout le monde sauf Morgane.
Encore
Gagnon, qui ne vous aime pas, Zep. Pourquoi tant de haine?
Non. Mais Zep, en plus, j'ai déjà été confrontée à vous au début de ce mois, parce que comme personne ne le sait en France, parce qu'on ne l'a pas dit du tout, j'ai joué mon spectacle à Genève le 8 avril, à Aunay, charmante bourgade, dont vous êtes natif, et les gars sont tellement fiers. Les loges, c'est un hommage à vous, il y a tellement vos dessins partout. À un moment, j'ai flippé, j'ai douté que vous soyez encore en vie, quoi. Et quelqu'un m'a dit, alors... Il est d'ici, Zep. J'ai répondu, mais encore heureux que c'est pas juste comme ça. Parce que ça aurait été hyper étrange. Des loges titres, mais gratuitement. Alors, dans ce que nous sommes, vous nous transposez dans un monde où certains humains disposent d'un second cerveau numérique où sont directement uploadés des connaissances et des expériences virtuelles plus vraies que nature. En gros, c'est une dystopie, et ce genre d'expérience de neurosciences, tout le monde s'accorde à dire que dans quelques décennies, on vivra comme ça. Alors qu'en vrai, je pense pas. En l'an 2000, rappelez-vous, on se parlait de voitures volantes et de Paris-New York en 25 minutes. 22 ans après, on est sur des trottinettes électriques qui tombent en rade de batterie rue de Ménilmontant, t'obligeant à dire à ton pote derrière, ça te va de mourir en moonwalk? On imagine toujours que les machines vont nous dominer dans une espèce de décor du cinquième élément, alors que n'oubliez jamais que l'être humain est extrêmement décevant. Si un jour le hoverboard de retour vers le futur marche vraiment, ça sera juste, à mon avis, pour être plus con, plus haut. Quand je vois comment on se comporte avec des véhicules normaux, j'ai du mal à me dire qu'il y aura un miracle quand on sera dans les airs, quoi. Je me suis garée comme un connard, mais dans le ciel. Remarque, pour Paris, il n'y aura pas beaucoup de différence. Si on est dans le ciel, il y aura toujours autant de pigeons et on regardera les gens de haut. Donc, dans ce que nous sommes, vous imaginez que les humains pourront télécharger aussi des programmes directement dans leur cerveau numérique. Une nouvelle langue, une science, ce que tu veux. Et c'est déjà un peu le cas, ça s'appelle la télévision. Quelqu'un qui branche son cerveau en permanence sur ses news, il apprend la haine de l'autre. Quelqu'un qui branche son cerveau en permanence sur Énergie 12, il apprend la haine de l'autre. Ça se grosse chouin avec son cul, là.
Ah, wow,
ce qui vous a inspiré, ce qui vous a inspiré ce nouvel ouvrage, c'est le projet Blue Brain, un projet qui a pour but de modéliser, de reproduire le numérique, en numérique, un cerveau humain. Ça coûte des milliards et les recherches durent depuis des années. Et je trouve qu'il est fou, ce monde. Il y a des pays, en ce moment, où il y a des gens qui meurent de maladies que normalement tu chopes que sur des bateaux pirates il y a 5 siècles. Et ailleurs, on se demande comment on peut upgrader le corps humain, parce que ce qu'on a, c'est pas assez. Minute, les enfants, moi je viens juste à peine de comprendre comment fonctionnent mes pouces, quoi. Donc les gars, ça a commencé par la Mésopotamie, on faisait des poteries au bord de fleuves, après on a créé des villes, l'argent, le capitalisme, et maintenant les gens font des burn-out et quittent tout pour ouvrir des ateliers de poterie et vivre au bord des fleuves. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a fait le tour? Oui. Franchement, imagine quand un gars aura, grâce à un programme, gober toutes les connaissances de l'humanité en 10 minutes, on aura l'air de quoi, nous, à côté? T'as vu, Leïla, j'ai fait un origami. Ouais, c'est Nagui en papier crépon. J'ai même fait des petites chaussures avec mon feutre à paillettes. Avec Tom Villa à côté, qui aura appris le croate en 7 minutes. Enfin, après, moi, ça m'arrange, le numérique. Je suis pas manuel, je sais pas accrocher un tableau. Je pense que si j'avais dû crucifier le Christ, je l'aurais fait à côté de la croix. Tu vois, j'aurais construit un Jésus pas droit, genre une humanité un petit peu bancale. Donc finalement, une bonne visseuse, moi, pour le monde de demain, ça me suffira amplement. Et de toute façon, si tout s'effondre, du côté de Genève, il y a des bunkers avec des fresques de Titeuf à l'intérieur.
Merci Morgane.
Morgane qui sera le 6 mai à Nice et après-demain, dimanche, à Toulouse avec la tournée des humoristes France Inter.
Très bien. Zeb, comme Morgane le rappelait, Blue Brain, c'est le véritable projet. Mais il y a une couleur déjà dans ce projet. Ça vous a influencé?
Peut-être inconsciemment, je n'ai pas pensé à ça, mais...
Oui. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui.
Et cette histoire d'amour, alors il fallait humaniser évidemment, et la première chose pour humaniser une histoire, c'est de mettre de l'amour ?
Non, je pense que j'écris toujours plutôt des histoires d'amour en fait, c'est toujours c'est mon côté fleur bleue, bleu.
Et en plus, encore. Et alors côté fleur, il y avait l'écologie était le sujet de The End.
Ouais.
Et il y a toujours pour vous finalement, c'est j'ai le sentiment que c'est le papa qui réagit avec qu'est-ce que je vais laisser comme planète à la nouvelle génération entre guillemets, et donc l'écologie ou le danger de l'intelligence artificielle. Mmh.
Oui, c'est des questions sur notre devenir en fait, qui sont vachement intéressantes, qui occupent un peu la scène. Enfin, ces temps, on parle beaucoup d'autres choses, mais a priori,
c'est intéressant et c'est flippant. Moi, je veux savoir quel est l'état d'esprit dans lequel vous le faites.
Je pense, c'est aussi le genre, un récit d'anticipation, il est toujours flippant parce que si on dit il va y avoir ça, ça va être génial. On s'en fout un peu. Moi, j'ai envie de flipper quand je vois un film de science-fiction. J'ai envie qu'on me fasse un peu peur sur mon avenir pour que ça me fasse réfléchir. Je pense qu'on est.
Donc, il faut qu'il y ait des gentils, des méchants. Il faut qu'il y ait des bandits, un clan qui vient tuer, des poursuites,
ouais.
Une histoire d'amour. C'est-à-dire que non, mais parce qu'on parle beaucoup de cette bande dessinée uniquement en s'intéressant à ce cerveau augmenté et à cette possibilité technologique. Mais il y a toute la trame, toute la fiction.
Oui, c'est un thriller, en fait. Voilà. Il faut qu'il y ait ça. Moi, je pense qu'on est. C'est l'avantage qu'on a quand on écrit une histoire par rapport aux scientifiques, c'est qu'on déjà on n'a pas du tout le devoir d'être précis. On peut imaginer, se dire tiens, est-ce que ça pourrait glisser vers cette possibilité ? Qu'est-ce qu'on deviendrait si on était soumis à ce truc-là ? Un scientifique, il peut pas commencer à extrapoler comme ça. Il doit s'en tenir à des faits. Donc, il faut aussi raconter une histoire qui soit un peu palpitante, un peu flippante.
Oui, parce que c'est formidable de pouvoir se dire on va télécharger des encyclopédies, plusieurs langues en quelques secondes, si on a la fibre, et ça ira beaucoup plus vite et on aura toutes les possibilités de se plonger dans ce nouveau cerveau, dans cette intelligence artificielle que l'on va maîtriser, mais qui dit numérique dit hacker et donc le danger d'être manipulé.
Donc ça, c'est pour moi, c'était l'angle d'attaque, c'était de dire voilà, on vit avec cette possibilité. Au départ, j'avais même pas pensé que c'était réservé à une élite. Je pensais que tout le monde aurait accès à ça. Et
de savoir que ça coûte cher, là, vous dites.
Tout à coup, ça va être réservé. Ça veut dire aussi que toute une partie de la population vit sans électricité, donc va devoir réapprendre à vivre avec des gestes beaucoup plus des choses beaucoup plus premières, quoi.
Primitives. Ouais.
Et même ceux qui y ont accès, il y a des sous-classes.
Voilà, tout le monde n'a pas le même accès. Il y a les premiums, un petit peu.
Et au fond, c'est peut-être cette évolution qui va permettre à une partie de la population de se recentrer, de revenir à la nature, de réapprendre finalement les choses essentielles.
Revenir à l'essentiel, ceci certain.
Non, mais il y a quelque chose de finalement de l'ordre de la fable aussi là-dedans, qui est pas si alarmiste que ça finalement.
C'est plus une fable qu'un récit scientifique. Le postulat scientifique, il est très simple, mais le personnage se fait hacker et donc il perd le fait qu'il perd accès à son cerveau numérique. Comme il a pas appris ces choses-là, son cerveau, il lui reste pas grand-chose. Il sait plus s'exprimer, plus lire, plus écrire. Il sait plus s'orienter parce qu'on peut aussi imaginer qu'on aura une sorte de Google Earth,
GPS,
on pourra se repérer partout. Et c'est génial.
Et c'est même plus lire, quoi. C'est-à-dire que.
Oui, puis, si on n'a pas appris, si on n'a pas fabriqué ce chemin-là dans notre cerveau, on le perd complètement.
Non, mais à tel point qu'il s'effondre, même physiquement.
Ouais. Alexis Le Rossignol.
Mais toute technologie est développée à des fins mercantiles, in fine, non? Vous pensez pas que ça va se démocratiser? C'est pas le but final, finalement?
Et que dès que quelqu'un invente quelque chose, c'est pour le commercialiser. Oui.
Probablement, mais là, on est, il y a une impossibilité d'aller plus loin parce qu'on a vraiment un problème d'énergie. On est en train déjà de promettre ça, le métaverse, toute la technologie qui est en train de se mettre en place, qui est surtout autour du divertissement, elle va avoir un coût énergétique énorme. Mmh. Mais là, ceux qui la proposent, ça n'a pas l'air de les inquiéter beaucoup parce que c'est encore possible. C'est-à-dire, ils vont bouffer toute l'énergie, toute l'électricité qu'on a, mais elle est là. Tandis que là, ce sera de toute façon pas possible, ce cerveau numérique. On pourra pas en avoir chacun.
C'est pas spécialement finalement futuriste, c'est très actuel tout ce que vous pointez du doigt, c'est-à-dire l'accès peut-être à des technologies ou même à une certaine forme de culture réservée à une élite, une grande partie de la population qui est en souffrance de d'énergie ou de moyens pour y accéder. Enfin, on est c'est presque une caricature du monde actuel projeté dans le futur, mais on n'est pas loin de la réalité.
Ouais, moi j'aime bien cette science-fiction qui est très proche en fait, qui est j'ai situé le récit dans 100 ans, mais ça pourrait arriver dans
2 ans.
Dans 2 ans, le temps. les choses peuvent se passer assez vite, ouais.
Est-ce que le rapport du GIEC prend en compte ce qu'il faut en ce moment-là? Parce qu'on nous donne 3 ans, mais finalement.
C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des gens qui sont en train de se battre pour essayer de changer notre manière de consommer l'énergie, de changer notre manière de nous comporter par rapport aux ressources de la planète. Et puis, mais c'est une goutte d'eau face à l'argent qui est mis sur la com pour qu'on consomme de plus en plus. Donc c'est vrai que c'est hyper...
Et avec ce programme intégré, est-ce que ça permet de lire plus vite le rapport du GIEC? Énorme.
Et dans le GIEC.
GIEC Lang. Excusez-moi, j'ai été trop vite. C'est ma puce.
Mais d'ailleurs, vous êtes aussi, comme nous tous, moteur de cette société de consommation. J'imagine que vous avez votre portable, vous avez votre tablette numérique, et puis dès l'instant où vous avez accès à des plateformes et vous êtes content de pouvoir voir tout ça. Donc, comment faire la part des choses entre ce dont on profite et le danger de cette surnumérisation et surconsommation?
Bah, je sais pas, c'est notre paradoxe. Ouais, c'est qu'à la fois, on a envie de faire des efforts, alors on change des petites choses, mais ça a peu d'impact. Et puis,
Vous parliez tout à l'heure des GPS et de Google Earth, quand on sait que l'espace devient une espèce de poubelle de satellites et qu'on en envoie, et que Elon Musk, justement, on envoie de plus en plus, Google aussi.
Milliers, là.
Ouais, c'est ça. Pour que toute la planète soit couverte et puisse avoir Internet par satellite, on se dit, oh, c'est génial, tout le monde aura accès à Internet, mais on est en train de massacrer aussi cet espace.
Ouais, on est dans une espèce de scénario de fuite en avant. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut pas faire ça, on court à la catastrophe, mais donc on le fait de plus en plus.
Parce que ça rapporte de l'argent.
Ça rapporte de l'argent, et puis qu'on est dans une logique où on pense jamais très très loin. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de scénario humain sur plusieurs siècles. En fait, on est en train de réfléchir à ce qui va nous arriver dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans maximum, mais il n'y a pas de... On n'est pas en train d'écrire une histoire, et puis c'est un peu acquis que de toute façon on va vers la fin, donc autant y aller, autant en profiter un maximum. Et ça c'est vachement
avec le recul.
Nouveau comme scénario humain. En fait.
Ouais. Disparition du moyen terme et du long terme.
Ouais.
Complètement.
Qu'est-ce qui nous manque à votre avis, un philosophe, une déontologie, un leader mais plus calme et moins mercantile?
Alors, moi, j'écris des histoires. J'aurais tendance à dire ce qui nous manque, c'est un nouveau scénario, en fait. On arrive à une espèce de fin de civilisation, et on n'a pas vraiment de projet pour une nouvelle. Donc, on peut que constater tous les signes qui font que le truc est en train de s'effondrer. Mais, moi, ça m'intéresse de
plomber l'ambiance
à ce nouveau scénario. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va trouver maintenant comme nouvelle idée? Ça, c'est pas fini dans 2 semaines. On a le temps, mais qu'est-ce qu'on va trouver comme nouveau scénario?
C'était plus léger, Titeuf, quand même.
Titeuf et le sexe.
Et le guide du zizi sexuel.
Revenez avec le zizi.
Revenez avec votre zizi, qui a dit ça?
J'ai dit que le zizi sexuel.
Ce que nous sommes, mais c'est aussi une belle histoire d'amour, c'est aussi un thriller, c'est passionnant, c'est intelligent, c'est bien dessiné. Ouais, mais il a raison. Et l'intelligence de Zep nous fait du bien. C'est Rue de Sèvres qui publie ce nouvel ouvrage, Ce que nous sommes. Voici Alexis Le Rossignol.
Allez, Alexis.
Bonjour à tous.
Bonjour à toi.
Ça va les vedettes?
Très bien.
C'est chiant de faire sa chronique les vendredis.
Pourquoi?
Parce qu'on peut pas parler de ce qui s'est passé les mercredis soirs. Parce que tous les autres en ont déjà parlé, quoi. Pourquoi je parle jamais des défaites du PSG en Ligue des Champions? Alors que tous les ans, ils me servent une chronique sur un plateau, quoi.
C'est pas drôle.
Parce que je suis là les vendredis. Pourquoi je peux pas parler du débat de l'entre-deux tours? Parce que je suis là le vendredi. Du coup, cette semaine, je vais vous donner des conseils pour l'été. Voilà, parce que l'été va arriver vite, hein. Et qui dit été dit petit problème d'été. petits accidents, tout ça. Vous savez comment ça se passe. On fait un barbecue, on rigole, on est là, Mélenchon premier ministre, ça met l'ambiance. Puis soudain, on marche sur une saucisse et hop, verrue plantaire, dents cassées, diarrhée. C'est comme ça que ça se passe. Et après, on panique.
L'enchaînement.
Parce qu'on était content. On avait loué dans les Cévennes, à Concoul, un bled où il y a personne. Mais à Concoul, il y a vraiment personne. Et surtout, il n'y a pas de médecin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on écoute cette chronique. Et on la réécoute au besoin. Et surtout, on la partage. Voilà. Parce que j'ai trouvé, un livre qui s'appelle 180 remèdes de grand-mère pour les maux de l'été. Avec un sous-titre, parce que la sagesse de nos grand-mères n'est pas à démontrer.
Eh ouais.
Elles ont voté pour qui, les grand-mères, au premier tour, hein? Bon, je peux pas développer, on est vendredi. En tout cas, en marketing, c'est vrai, les grand-mères, c'est des valeurs sûres. Quand tu dis, c'est une recette de ma grand-mère, ah, derrière, t'es sûr que les gens trouvent ça bon, hein. Alors que si ça se trouve, la grand-mère, elle a jamais cuisiné, puisque c'est une feignasse, hein. Ou pourquoi pas une féministe, je sais pas. En plus, le concept de grand-mère à l'ancienne, il commence à vieillir. Dans 20 ans, on va avoir des grand-mères qui vont dire frère. Et avant ça, des grand-mères qui auront des écritures chinoises sur les bras. Et des trous de piercing mal rebouchés. Vestiges du bon goût des années 2000, quoi. Est-ce que les remèdes des grand-mères survivront à ça? Hein, ouais, j'aurais quand même bien fait une chronique sur le débat, moi. Hein. Non, mais il faut que ta chronique, ce soit une respiration avant le week-end. Hein. Je t'en foutrais, moi, des respirations. Bref, je vais vous lire une petite sélection des remèdes de grand-mère que j'ai trouvé dans ce livre.
Ah, s'il te plaît.
Par exemple, pour apaiser un coup de soleil, si vous n'avez pas de biafine, vous pouvez appliquer généreusement du jaune d'œuf sur la peau et laisser reposer une ou deux heures. Vous saviez ça?
Bah non.
Et si vous n'avez pas d'œufs, vous pouvez utiliser des rondelles de pommes de terre.
Oui, ça c'est
ou de tomates bien fraîches.
Absolument.
Et après ça, vous récupérez le tout, vous rajoutez un peu de mayonnaise et vous avez une piémontaise. Voilà. Autre remède. Si vous avez une douleur dentaire, ça c'est important. Ouais. Ou même carrément une rage de dents, vous prenez une gousse d'ail et vous la plaquez contre la dent et vous la gardez en bouche pendant plusieurs heures. Et après, normalement, vous avez plus mal. Vous pouvez de la gueule, hein, certes, mais vous avez plus mal, quoi.
Oh, légèrement.
Et de toute façon, c'est pas grave, parce qu'il y a un autre remède de grand-mère pour lutter contre les odeurs buccales, c'est de mâcher du persil. Ta bouche, c'est une cantine libanaise, mais tu sens plus mauvais. Ce qui est bien avec les remèdes de grand-mère, c'est qu'en soignant un problème, t'en crées un autre et tu t'ennuies jamais, quoi. Par exemple, pour décoller un chewing-gum collé dans les cheveux. Ben, ça n'arrive jamais, mais bon. On peut utiliser de la mayonnaise ou de l'huile. Et après, on n'a plus de chewing-gum, mais on a de la mayo ou de l'huile dans les cheveux, quoi. Qu'on peut enlever.
Comment? Avec un glaçon aussi, c'est bien.
Oui, un glaçon aussi. Ouais. Mais c'était moins marrant pour la chronique. Excuse-moi, Nagui, mais c'est des vannes.
Moi, je suis dans un truc de grand-mère.
Donc, on a de la mayo ou de l'huile dans les cheveux qu'on peut enlever grâce au jus d'un demi-citron, de l'eau gazeuse et un glaçon. Un virgin mojito, quoi. D'ailleurs, il y a le même livre, version Guadeloupe et Martinique. Et bizarrement, la grande majorité des remèdes sont composés de miel, de citron vert et de rhum agricole, quoi. C'est très régional, les recettes de grand-mère. Après, il y a les hémorroïdes. Ça, c'est chiant, les hémorroïdes.
Oh,
surtout en randonnée sur chemin étroit. Parce que tu peux pas éviter les frottements, quoi. Alors, le remède, c'est de faire un bain de siège dans de l'eau glacée. Bain de siège, tout le monde voit ce que c'est?
Ouais.
Moi, je connaissais pas. En fait, c'est comme un bain de bouche, mais à un endroit où les baisers volés sont plus rares, quoi. Et sinon, deuxième technique, on peut s'asseoir plusieurs heures sur une terre argileuse.
Oui. Ah ouais, c'est
l'avantage de cette technique, tu peux récupérer le moule et en faire une céramique, en souvenir. J'aurais bien fait une chronique sur le débat, moi, quand même.
Oui, quand même.
Autre remède miracle pour soulager une conjonctivite.
Ah.
Une goutte de lait maternel dans les yeux.
Oh.
Bon, faut avoir une jeune maman sous la main.
Ça.
Vous demandez poliment, quoi. Excusez-moi. Je vous avais mis bas il y a pas longtemps. Auriez-vous une petite goutte de lait, un peu de panier? C'est pour mes yeux.
Goutte.
Ensuite, là, vous vous dites, est-ce qu'il va vraiment nous lire des remèdes de grand-mère pendant toute sa chronique?
Mais oui.
J'adore.
Oui. Non, mais la suivante, elle est, comment faire fuir les guêpes? En plaçant du clou de girofle dans une écuelle.
Ah oui.
Tout simplement. Finalement, le seul remède que j'ai pas trouvé, c'est comment ripolliner une chute à la fin d'une chronique. Hein.
Ripolliner.
Allez, finito. Ah,
merci. Bonne journée. Alexis Lorenzignol.
Alexis Lorenzignol, qui bien entendu, le 30 sera à Aix-en-Provence et tous les dimanches à Paris.
Peut-on modifier notre cerveau? L'une des questions que nous allons poser à Sébastien Boller, rédacteur en chef de la revue Psycho et Cerveau, qui sera notre invité dans quelques instants. Ce que nous sommes dit oui dans votre bande dessinée, mais vous êtes appuyé sur une rencontre, une discussion. Vous étayez toujours vos bandes dessinées par des recherches, par des entretiens, pour être au plus proche, en tout cas, de bases réelles.
Oui, alors après je cherche pas à faire un ouvrage scientifique, je vais pas développer le propos scientifique parce qu'il serait trop compliqué et moi-même je comprends pas.
Non mais vous voulez au moins que les fondations soient solides.
J'écris un pré-scénario et je vais le confronter à des scientifiques qui travaillent sur le sujet et après le scénario va bouger aussi avec ce dialogue. Et j'aime bien cette partie-là parce que et souvent les scientifiques sont assez preneurs. Parce que justement, la fiction offre aussi une tribune pour le sujet, permet de parler d'un sujet qui n'est pas forcément le plus vendeur ou le plus accessible, quoi.
Donc, on dit souvent que la réalité va plus loin et surprend plus que la fiction. C'est pour ça aussi qu'il faut avoir une marche d'avance.
Bien sûr, ouais. Et souvent, l'album précédent, Diane, qui était sur les arbres, j'avais été rencontrer Francis Allais, qui est ce grand botaniste français, et lui m'a raconté des choses beaucoup plus incroyables que ce que j'avais pu trouver comme information. Et là aussi, avec l'info sur le cerveau numérique, la recherche, pour le moment, elle donne des faits donc qui ont été prouvés, validés et tout, mais ce qu'ils ont découvert, il y a des choses qui vont beaucoup plus loin.
Alexis,
j'avais une question par rapport à vos lecteurs. Est-ce qu'ils ont suivi en fait de Titeuf à ce que vous faites maintenant, ou est-ce que c'est un public complètement différent?
Il y en a qui ont suivi, ouais, parce que maintenant Titeuf a 30 ans, donc ouais. Aussi beaucoup de lecteurs qui ont grandi.
Proms, moi je suis passé par Titeuf, j'ai découvert Zep avec Titeuf, et puis après, oui, mais évidemment, c'est ça qui est fort, c'est-à-dire que vous avez cette capacité à être potache et faire des vannes, comment dirais-je, qui parlent à toutes les générations, et de l'autre côté, à prendre un peu de recul et être plus grave. Ça veut pas dire faire peur, mais en tout cas c'est le cas avec l'écologie, c'est le cas avec le numérique. Il y a des moments où vous avez envie d'être sérieux.
Ouais, tout à fait. C'est des sujets que je ne m'aurais pas traités.
Il y a pas de vanne possible.
Ouais. Non.
Quoi qu'un cerveau augmenté avec Titeuf, ça pourrait être drôle. Quand
même. Ouais, non, mais peut-être qu'il traitera d'ailleurs dans le prochain Titeuf le sujet aussi, et ça l'intéresserait sûrement beaucoup de pouvoir échapper à l'école, bien
c'est
sûr.
Clair.
Mais après, il y a certains sujets, Titeuf va toujours les traiter avec humour, et c'est bien, ça permet de faire aussi passer des sujets graves, mais c'est pas la même.
Oui, parce qu'il y a toujours des valeurs dans Titeuf, il y a toujours des choses à comprendre sur le harcèlement à l'école, sur le respect des femmes.
C'est traité par l'absurde et tout ça, alors que là, ça n'a pas sa place.
Oui, mais il y a toujours en toile de fond, comme si c'était un devoir que vous mettez, ou un plaisir, c'est de transmettre des valeurs.
Ouais, je pense, ouais. C'est quelque chose qui est important pour moi. Et puis,
être utile.
Que ce soit utile et que ce soit le reflet de notre société, en fait. Dès le départ, pour moi, Titeuf, il fallait que ce soit une bande dessinée réaliste, même si le terme peut sembler un peu bizarre avec ce dessin-là, mais qu'on voit, je sais pas, j'ai commencé à faire Titeuf en 92, dans Titeuf, le premier album, on parlait du sida, du chômage, qui étaient des thèmes importants à ce moment-là, pas pour faire quelque chose d'alarmiste, mais parce que je pense qu'on a besoin de rire aussi, des choses qui font notre quotidien.
En collant à la réalité.
En collant à la réalité.
Et j'ai le sentiment quand même si vous le dites pas, mais tant mieux, c'est votre modestie, mais oui, d'être utile, comme peut l'être un artiste, un chanteur, un auteur de romans ou de cinéma, c'est-à-dire ne pas simplement faire du divertissement pour le divertissement, mais apporter quelque chose en plus. La musique est forcément présente, évidemment, dans les bandes dessinées de Zep. Il y a du Jimi Hendrix qui traîne dans ce que nous sommes, et la musique dans la vie de Zep. On va partir en 2005-2006, il n'y a pas longtemps que vous écoutiez.
On est un magicien quand on aime.
Areski.
Magicienne.
Pourquoi ce titre ?
En fait, j'ai rencontré Areski à cette époque-là parce qu'on travaillait sur les premiers concerts de dessin qui sont devenus maintenant une
rendez-vous
de marque du Festival d'Angoulême, qui était de faire dessiner live des auteurs qui étaient invités, et de voir des mains sur un immense écran en train de dessiner une histoire, un peu comme une danseuse, et avec un orchestre qui les accompagne. Et c'est Areski qui a suivi le truc, et après avec Brigitte Fontaine aussi.
2005-2006, voilà, vous êtes le président du festival d'Angoulême, Zep. Est-ce qu'en Suisse, il y a beaucoup d'émissions qui parlent de bande dessinée? La bande dessinée, c'est ce qui se vend le mieux en librairie. Et pourtant, j'ai la sensation que c'est l'espace le plus petit consacré d'un point de vue médiatique.
Ah ça va vachement mieux. Franchement, en 30 ans, ça s'est beaucoup amélioré.
Non, mais ça va mieux pour vous qui êtes un nom aussi. Vous êtes reçu, mais je pense à plein d'auteurs de BD. Moi, je vois le nombre d'albums qui sortent. Et des gens que je vois à peine en photo en quatrième de couverture, mais que je n'ai vu encore nulle part, alors qu'ils font des albums exceptionnels.
Ouais, ça reste, on reste assez peu présent dans les médias, mais quand même beaucoup plus qu'il y a 20 ou 30 ans où, on était, enfin, à moins de faire une bande dessinée sur un sujet tout à coup qui collait une actu sociologique, on n'était jamais invité d'une émission.
Et en Suisse, il y a des émissions sur la bande dessinée?
Non, pas sur la bande dessinée, mais dans l'émission, les émissions culturelles.
Culturelles, ouais.
Mais il y avait des émissions, quand j'étais gamin, il y avait une émission qui s'appelait La Bande à BD, qui invitait des auteurs qui étaient là. Mais c'est vraiment les émissions jeunesse, donc c'était drôle parce que il y avait Franquin, Hergé, les grands auteurs de l'époque qui arrivaient, qui fumaient comme des pompiers dans des émissions jeunesse entourées de plein d'enfants.
Coucou.
Et là, ils leur fumaient, ils crachaient leur fumée à la figure en leur expliquant la bande dessinée.
En 2009, vous écoutiez Zep. La version de Ben Harper, cette chanson de Marvin Gaye. Vous préférez la version de Ben Harper que celle de Marvin Gaye?
J'adore Ben Harper en fait. J'étais pendant des années dessinateur dans des festivals, je dessinais dans les coulisses. Et c'était vraiment un job génial parce que moi j'adore aller au concert, donc je voyais... J'avais une espèce de position privilégiée parce qu'en plus j'étais là en train de dessiner et autant les musiciens se méfient un peu des photographes, ils leur demandent de sortir, alors qu'un dessinateur ça gêne pas.
Ce qui est bizarre, c'est que vous demandez à votre fils de poser pour pouvoir dessiner et que à des concerts vous n'allez pas demander au chanteur d'arrêter de bouger.
Arrête de bouger
pour que je dessine.
Des fois on aimerait bien qu'il bouge
un peu. Mais je crois que dans le train vous adorez être assis en face de quelqu'un qui dort.
Ah ouais, ça c'est le rêve. Quelqu'un qui pose. Parce que ce qui est toujours emmerdant quand on dessine quelqu'un, c'est qu'ils s'en rendent compte parce que tout à coup les gens cessent d'être naturels.
La police et tout ça. Ouais.
Il n'y a pas de consentement dans le dessin, quoi. C'est-à-dire, je dors, voilà, on me demande pas. On est en 2009, Zep. Vous publiez Happy Sex, une BD qui réservée aux adultes, qu'on avait lu ici, dont on avait parlé dans cette émission. C'est épanouissant, c'est marrant de dessiner des zizi.
Ouais, à fond.
Il n'y avait pas que des zizi. Il y avait des seins, il y avait des fesses.
Mais en tout cas,
j'ai appris à dessiner pour la réédition du Guide du zizi sexuel l'année passée. Des clitoris, et c'est vachement graphique aussi.
C'est des belles fleurs, ouais. Quoi.
Ça ressemble plutôt à un oiseau volant dans une BD de Moebius, quoi.
Donc, d'accord. C'est vrai, moi j'étais plutôt dans leur
clip. Je pense au clip, la sortie de Suzanne, Clito is good, où on voit vraiment c'est hyper beau, hein, aller voir ce clip, des fleurs, des oiseaux, des êtres un peu volants, comme ça. Comment vous êtes pris pour dessiner les clitoris, parce que du coup...
La personne s'est réveillée ou pas?
Ouais.
Là, c'était dans le train déjà.
Je veux savoir quelle ligne.
Est-ce qu'il faut un modèle pour le coup? Comment on fait?
Non, mais j'ai travaillé avec.
Faut y aller.
Avec courage.
Non, j'avais travaillé avec une. Mais maintenant, je vous
me avec posez Google Maps.
Non, mais avec une artiste danoise qui fait des sculptures de sexe, qui fait que des modélisations de sexe féminin et de clitoris. Donc voilà.
Mais vous aviez dessiné Esmeralda, vous avez publié un album qui s'appelait Esmeralda. Esmera. Où en fait, je crois que le personnage, à partir du moment où il jouissait, il changeait de sexe.
Ouais.
On est déjà sur une histoire et un postulat assez intéressant et très moderne en fait.
Une fable érotique que j'avais fait avec Vince, qui est un dessinateur érotique absolument génial, et j'avais écrit cette histoire pour lui. Et le personnage, à chaque
orgasme,
commence sa vie. L'histoire commence dans les années 60, et donc comme le personnage vit deux vies, vieillit beaucoup moins, donc il traverse. C'était pour faire aussi une histoire qui parcourait 40 ans de même 50 ans d'histoire ici occidentale. Donc le rapport à la sexualité, de quelle manière il change chaque fois qu'elle se masturbe ou qu'elle a un orgasme ou qu'il a un orgasme, il change de sexe.
Ça fait rêver.
Zep, ce que nous sommes, publié aux éditions Rue de Sèvres. Sébastien Boller, alors pardon, c'est Cerveau et Psycho, et pas Psycho et Cerveau. J'ai fait un petit dérapage. Vous êtes rédacteur en chef de cette revue, donc Cerveau et Psycho, auteur de nombreux livres, dont le dernier Human Psycho, ou Comment l'humanité est devenue l'espèce la plus dangereuse de la planète, aux éditions Bouquin. Ce qui est dit dans la bande dessinée de Zep, pour vous, c'est déjà le cas aujourd'hui, ou c'est futuriste?
Non, c'est futuriste, mais ça repose sur des recherches qui sont bien réelles. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut commencer à interagir avec des électrodes, avec le fonctionnement du cerveau humain.
Là, ce sont des travaux réalisés en ce moment sur les cerveaux?
Oui, tout à fait, oui. Principalement sur l'expérimentation animale, mais on commence aussi à le faire un peu sur l'humain.
Alors, est-ce que l'idée, comme évoqué tout à l'heure, est d'aider comme une chirurgie réparatrice après des AVC, après une opération, pour venir reconnecter des parties du cerveau qui ont pu souffrir, ou c'est de l'upgrader justement et d'avoir un deuxième cerveau, une intelligence artificielle rajoutée?
C'est les deux. Principalement, ça vient quand même d'un souci thérapeutique avec les interfaces cerveau-machine. Ça a été pas mal développé pour des personnes paralysées, tétraplégiques. qui peuvent plus bouger un membre. Là, il y a des appareils qui permettent de capter les courants électriques produits par le cerveau pour convertir ça en des mouvements.
Ce dont on avait parlé tout à l'heure.
De curseur, voilà, ouais. Tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qui a été développé dans un souci thérapeutique. Mais évidemment, on pense déjà à aller plus loin. Il y a des expériences qui montrent qu'on peut augmenter les fonctions sensorielles, cognitives, quand on emploie la bonne stimulation.
Mais alors, est-ce que c'est un système de puces qui vient se mettre dans le cerveau?
Comment ça fait? Il y a plusieurs techniques. Alors,
on parle de deuxième cerveau.
Ouais, ouais, les implants corticaux, c'est-à-dire c'est des sortes de puces qu'on peut mettre sur la surface du cerveau, le cortex cérébral, pour augmenter par exemple les capacités de concentration. Ou la mémoire aussi. Il y a une partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe qui est responsable de l'engravation des souvenirs, par exemple. Et on voit que...
Donc la mémoire.
Hein, voilà, tout à fait.
Augmenter sa mémoire. Hmm, on va augmenter sa capacité de mémoire comme on peut le faire avec un ordinateur. Alors, en rajoutant des puces.
C'est une possibilité. Pour l'instant, ce qu'on sait faire, c'est capter l'activité des cellules nerveuses qui s'activent quand vous formez un souvenir, par exemple, les transférer sur un ordinateur, et puis ensuite, par exemple, les transférer à un autre animal, un autre rat dans une autre cage, qui va retrouver des comportements qui ont été acquis par le premier rat. Oh. Des choses comme ça. Et donc, on peut imaginer qu'en accumulant plein de souvenirs sur la même puce, on puisse les transférer à un individu.
Mais est-ce qu'on peut imaginer que notre œil devienne une caméra qui filme sur un disque dur qui est dans le cerveau et qui là aussi
le producteur télé toujours
projette des images. Non mais t'imagines, tu clignes des yeux et ça prend une photo.
Non, alors ce qui existe, c'est les...
Bah, il faut se dépêcher parce que c'est une très bonne idée.
Les implants rétiniens, on en est très loin. Dépose. Pour redonner une forme de vision à des aveugles, par exemple, c'est des petites caméras qui sont sur les montures des lunettes et qui vont ensuite se ficher dans la rétine pour envoyer les informations de la caméra vers le cerveau pour donner un début de perception visuelle. Mmh.
Tout à l'heure, Zep évoquait le problème de l'énergie. Hein. C'était le chercheur que vous aviez rencontré.
Pierre Magistretti, qui disait que ce projet Human Brain, il va consommer une énergie phénoménale.
Existe, hein,
oui, bien sûr. Et c'est le problème. Oui, il existe. Il a été lancé il y a une dizaine d'années. C'est des supercalculateurs qui veulent concentrer toutes les connaissances en neurosciences dans 90 laboratoires de par le monde pour recréer une sorte de cerveau in silico, un cerveau virtuel. Mais ça consomme une énergie dingue. Ils ont réussi à reproduire pendant quelques secondes l'équivalent du fonctionnement d'une partie du cerveau du rat qui fait le volume d'une tête d'épingle, mais avec des quantités d'énergie faramineuses. Parce que notre cerveau a la capacité d'économiser énormément d'énergie. Il produit plein de souvenirs, de pensées, d'émotions avec très très peu d'énergie. Mmh. C'est totalement optimisé.
Donc tous les rats dans Paris, là, c'est l'expérimentation.
Pour voir le bon côté des choses et pas être alarmiste, le bon côté des choses, c'est d'abord la thérapie, c'est d'abord de sauver des situations dramatiques et de légèrement améliorer notre capacité de mémoire, notre capacité cognitive sur les langues. C'est vrai que c'est la première chose que l'on se dit. C'est-à-dire que si tout le monde pouvait parler toutes les langues, ça serait peut-être quelque chose qui viendrait simplifier quelques relations internationales.
Alors oui, ce serait peut-être intéressant. On en est très très loin quand même. Là, le chemin à parcourir est immense. Pour revenir aux enjeux climatiques, par exemple, on n'aura certainement pas le temps d'arriver là parce qu'il y aura...
Parce que l'énergie ?
Parce que les désordres géopolitiques, parce que tous les problèmes sociétaux, économiques qui vont se poser vont arriver bien avant le moment.
Donc, à quoi ça sert d'y travailler
si... Ça sert à essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau. Ça, c'est quand même assez génial. Le but du projet Human Brain, c'est surtout pour comprendre comment ça marche, pour tester des médicaments aussi, pour tester des modèles, comment fonctionnent les cellules, les gènes, les neurotransmetteurs, parce que c'est un outil de recherche avant tout. L'idée de recréer une espèce de conscience artificielle, bon, c'est assez fascinant, mais peut-être qu'on y arrivera d'ailleurs, parce qu'on crée des machines, pour l'instant, qui sont pas conçues pour avoir une conscience, parce que l'architecture neuronale n'est pas au départ imaginée pour ça, mais ça pourrait changer, donc ce serait quand même assez intéressant. Après, de là, généraliser ça aux masses, ça paraît très très loin.
Est-ce que tous ces projets sont entre mains des GAFAM, entre mains d'intérêts privés, donc commerciaux, donc un risque de manipulation?
Bon, alors là, il faut parler principalement des États-Unis, parce qu'en France, ces projets, ils sont pas très très avancés. Aux États-Unis, il y a les deux, les GAFAM, et puis il y a la DARPA quand même, qui est une agence gouvernementale qui est liée à l'armée et qui
c'est rassurant.
Voilà.
Ça va. Est-ce que ce serait possible d'envisager de hacker son voisin, le cerveau de son voisin?
Bien sûr, bien sûr, ce sera possible. Mais on le fait déjà. Moi, ce qui m'étonne quand on parle de ces sujets-là, c'est qu'on imagine qu'il va falloir des électrodes machin, mais le complotisme, c'est du hackage de cerveau. La propagande, c'est du hackage de cerveau. Dans les années 60,
pleine après la guerre de Corée, il y avait la guerre idéologique entre les États-Unis puis les blocs de l'Est. Les Américains étaient paniqués à l'idée de voir leurs soldats revenir de Chine, des camps chinois. Ils étaient devenus communistes. Donc ils disaient comment ils ont fait pour leur faire du lavage de cerveau. Alors ils se sont dit un petit peu comme on est là. Il y a eu des électrodes, il y a eu des molécules. Ils ont fait plein d'expériences qui ont jamais rien donné avec du LSD, plein de trucs, avant de se rendre compte que les Chinois faisaient ça psychologiquement par des méthodes beaucoup plus fines et beaucoup plus efficaces.
Dans la bande dessinée, Zep envisage de conserver l'esprit de gens qui sont partis, c'est-à-dire que si des cerveaux ont été augmentés, qui ont apparemment fondu un peu les plombs parce qu'ils ont fait un arrêt cérébral, qu'en tout cas on peut continuer à entretenir la pensée avec eux, la conversation, est-ce que ça c'est envisageable?
Des projets pour Michel Drucker.
Il y a eu des tentatives. Je me souviens qu'il y avait eu un homme dont le père était condamné par une maladie incurable et qui avait décidé de mettre tout ce qu'ils avaient vécu ensemble dans un logiciel qui donnait des réponses un peu comme son père le faisait de son vivant. Mmh. Et donc ça peut donner l'illusion, mais évidemment la machine n'a pas la conscience et les émotions que peut avoir l'humain. Donc c'est une interface qui permet peut-être d'entretenir le souvenir pour ceux qui sont encore là. La vraie question qui va se poser, c'est quand on aura des machines conscientes, ce qui est une question ouverte.
Sébastien Boller, rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho. Vous aviez autre chose à nous raconter? On a oublié de vous poser une question. Parce que c'est passionnant ce que vous racontez.
Oui, les principales recherches sur le cerveau, ça, apparemment, ouais, ça vous intéressait.
Bien sûr.
Non, il y a plein de recherches en dehors de ça, sur la neuroéducation, comment apprendre aux élèves à comprendre le fonctionnement de leur attention pour pas décrocher en classe. Il y a plein de choses, évidemment, sur le microbiote, le lien entre l'estomac et le cerveau, comment nos aliments.
Le deuxième cerveau, c'est ça?
Voilà, exactement. Donc ça, c'est des choses fascinantes.
Cerveau et Psycho. Merci, Sébastien Boller. C'était passionnant. On va continuer, évidemment, de parler de la bande dessinée de Zep, ce que nous sommes. Mais d'abord, voici le héros du jour, Monsieur Daniel Morat.
Chers amis, mon héros du jour aurait pu être aujourd'hui, et là je vais faire plaisir à Nagui, mon héros aurait pu être le Beaufort. Oui, le Beaufort, ce fromage souvent ignoré au profit du Comté ou du Gruyère, et qui pourtant est un sacré pourvoyeur de kiff. Fromage au lait cru de vache, à pâte pressée, cuite, élaborée en Savoie, il est formé en meule, à talons légèrement concaves. Ses saveurs sont fruitées, douces mais corsées à la fois, il laisse au palais un arrière-goût délicieux sans pour autant piquer la langue. Si vous ne commettez pas l'erreur de vous brosser les dents après le déjeuner, son fumet vous accompagnera toute la journée et quand vous parlerez de près aux gens, ils sauront tout de suite que vous êtes un homme de goût. Petit conseil, si vous avez une dent creuse, placez-y un petit morceau de croûte de Beaufort. Et là, sous condition bien sûr de toujours oublier la brosse à dents, vous aurez une délicieuse haleine fromagère tout le week-end. Alors oui, au Beaufort, ce fromage bien trop en retrait à mon goût, mais qui pour autant, n'est pas mon héros du jour. Non, ce n'est pas mon héros. Aujourd'hui, c'est une héroïne que je nomme.
Mais non. Mais
oui, et mon héroïne, c'est...
La vache qui rit.
Ah, ça lui fera plaisir, c'est la reine d'Angleterre, oui. Elisabeth II, Mamie Pudding, 96 ans depuis hier. Ça, c'est de la gonzesse. Ça, c'est du développement durable. Bon, en ce moment, elle n'est pas super au top de la forme physique, mais elle va se reprendre un petit ginto au réveil jusqu'en septembre. Après, elle pourra reprendre sa pinte de Guinness matinale sans problème. Quand tu penses à ce qu'elle a traversé comme
épreuve. C'est vrai, n'empêche.
Des épreuves terribles, où elle plia mais jamais ne rompit. Elle tient toujours la barre, Zaza. Rappelez-vous quand son château a partiellement cramé en 92. Pas une larme, pas un rictus. Digne. Royal. Nous on a Pécresse qui chiale parce qu'elle a des dettes. On a les leaders qu'on mérite. Alors oui, certains diront, ce roi n'a jamais travaillé de sa vie, tranquille la rosbif. Mais bande de cons! Vous croyez que c'est facile peut-être de faire coucou depuis sa terrasse pendant des plombes avec le sourire figé à tes côtés, un fils aîné qui a l'air complètement crétin? Vous croyez que c'est facile de parler avec un premier ministre comme Boris Johnson qui tous les matins a une gueule à avoir fêté toute la nuit les excellents résultats d'audience de France Inter et de France Info? Non! Ce n'est pas facile du tout! C'est pas facile, mais en tout cas, ça a l'air d'entretenir. Bravo, Majesté, vous méritez amplement ce titre tant convoité d'héroïne du jour. God save Elizabeth!
Merci, Daniel Morin. Zep, ce que nous sommes, rue de Sèvres, on parle beaucoup du numérique, on en oublie l'essentiel et qui est présent également dans cette histoire d'amour, ce sont les sensations. Sensations justement d'amour, de caresses, des premières fois. On passe vraiment d'une extrême à l'autre, ce que le numérique ne peut pas remplacer. Enfin, peut-être pas pour l'instant.
Ah, pour l'instant, là, lui, il peut pratiquement vivre toutes les sensations, même les sensations de... de bouffe, par exemple, du Beaufort, il pourrait vivre le truc.
La pilule au Beaufort.
Parce qu'il mange une pilule protéinée.
Oui.
Et son cerveau lui dit, voilà. Lui dicte le croustillant, la chaleur.
Ce sont des pilules pour tout, en plus.
Ouais. Oui, non, mais il boit aussi du thé ou du café. Enfin, la fois où il va boire un véritable thé, il va se brûler parce qu'il l'a jamais.
Il a pas l'habitude de boire physiquement quelque chose de chaud. En fait, il boit quelque chose et son cerveau lui dit que c'est chaud.
Et pareil pour l'amour, et pareil pour le French kiss, et pareil pour première fois.
Oui, il peut vivre toutes sortes d'expériences. Donc, il a vécu déjà beaucoup d'expériences sexuelles, mais jamais avec une personne.
Réelle, en tout cas.
Jamais avec une personne réelle. Ouais. Parce qu'à partir du moment où on pourra piloter notre cerveau, on pourra lui dicter toutes les sensations, c'est-à-dire aussi la pression corporelle, les sensations musculaires. Donc, d'une certaine manière, il n'y aura plus besoin de vivre en interaction avec d'autres gens.
Ce que nous sommes, publié chez Rue de Sèvres, signé Zep, on en parle jusqu'à 12h30 dans la prochaine demi-heure. Tom Villa, tu vas remettre des prix, un prix.
Oui, et on va parler de la fête des pères. Cette année, c'est avancé, c'est peut-être dimanche.
Quel suspense, tout ça sera après les infos de midi. C'est la bande originale avec Leïla Kadouroudadi, Morgane Gadignan, Alexis Rossignol, Tom Villa,
bonjour.
Daniel Morin et notre invité Zep.
Oui.
Bravo.
Ce que nous sommes, cette bande dessinée, j'allais dire pour adultes, non, elle est pour tout le monde, elle n'est pas spécialement interdite aux enfants.
Non, pas du tout. Non, je crois pas qu'il y a.
Il n'y a rien de choquant.
Non.
Rien de choquant. Il y a des jolis seins, mais vous avez sûrement des modèles autour de vous pour savoir comment les dessiner.
Voilà, oui. Oh. Et puis, non, mais je pense que les enfants vont être choqués de voir quelqu'un un peu tout nu.
Mais non, puisque maintenant que je sais qu'il a besoin d'un modèle, j'étais un peu comme Leïla. Je pensais que vous aviez votre.
Ah, c'était impliqué dans l'histoire.
Votre imaginaire. Non, mais tout à l'heure, elle était surprise. Elle était surprise.
Pour les seins.
Oui. Ils sont très jolis dans la bande dessinée.
Qu'est-ce qui se passe ?
C'est une belle bande dessinée. Ça dessine bien, c'est formidable. Pourquoi cette baleine bleue au début pour avoir le plus gros mammifère terrestre imaginable ?
Il y a Melville, il y a plein de références.
Ouais, il y a Melville, le personnage, il y a pas mal de références à Moby Dick.
Ça revient,
et puis il fallait une scène fantasmatique. Imaginez si on pouvait tout faire, si on avait toutes les sensations possibles, qu'est-ce qui serait génial de faire ? Et je pense que tout le monde aura une autre réponse. Et moi, je me suis dit nager avec une baleine et me faire bouffer par un requin.
Jusqu'à, ouais, c'est ça. Jusqu'à chercher la texture de la peau.
Oui, parce que bah, si on le fait avec un casque VR, par exemple, on sent pas grand-chose. On va peut-être sentir, si on a des gants, des petits trucs qui appuient sur les doigts, mais pouvoir vraiment sentir la texture, être vraiment sous l'eau, mais en même temps respirer, c'est génial.
Alors, il y a quelques références littéraires, et parmi ces références, il y a Sylvain Tesson.
Ouais.
Vous avez alors vous.
C'est pas écrit jusqu'au
presque,
bout.
Ouais, vous aviez complètement le choix de citer Sylvain Tess. Il y a Aragon, il y a Melville, on l'a dit. Ouais. Mais, et puis il y a Tesson.
Oui, c'est toujours marrant quand on fait de l'anticipation de se dire tiens qu'est-ce qui restera. Aragon,
ouais.
Melville, on prend pas beaucoup de risques parce que c'est des classiques.
Bien sûr.
Mais c'est toujours c'est un kiff quand on raconte l'histoire de se dire tiens je vais prendre quelque chose de notre culture actuelle et imaginer que dans 100 ans ou 200 ans ce sera encore là. On sait pas et voilà.
Moi, un petit pari.
Je souhaite à Sylvain
Tesson. Un petit pari sur Sylvain Tesson.
Vous la faites. Vous avez des premiers lecteurs entre guillemets qui vous servent de conseils, de panel, oui, de réactions autour de vous.
Bah, j'ai mon éditrice qui est là d'ailleurs, Nadia.
J'ai cru que c'était Morgane, moi.
Oui, c'est retourné dans la page.
Bonjour.
Derrière la vitre, de l'autre côté de la vitre.
Attends, un boulot.
Et ouais, c'est un dialogue.
C'est l'œil, ouais, c'est ça.
Ouais, c'est elle qui relie et en fait, il y a eu 11 versions de cette histoire.
Mais non.
Ouais.
À cause de quoi ?
Il y a 11 versions dessinées sous forme de storyboard, donc c'est un dessin.
C'est énorme, 11.
Avant de trouver la bonne. Alors, c'est pas tout est redessiné, les 90 pages.
J'entends, mais qu'est-ce qu'il fallait changer alors ?
Ouais. Et pourquoi passer par le storyboard et pas.
Moi, j'ai besoin de le voir en bande dessinée.
D'accord.
Si écrire une histoire sous forme de script et imaginer ce que ça va être en bande dessinée, c'est pas pareil. Il faut vraiment le voir. Et c'est l'avantage de la BD. Si vous faites un film, vous n'allez pas dire on va tourner 11 versions du film pour décider. Tandis que là, on peut le faire.
Il peut y avoir différents montages au cinéma.
Oui, oui. Mais c'est fait après coup. On a déjà tourné les images.
Ça veut dire que vous avez absolument. Ça veut dire que vous avez coupé des passages ou éclairci des explications.
Coupé, supprimé des passages, ajouté d'autres passages.
Il y avait des intrigues parallèles, d'autres personnages.
Il y avait Maintenant, je me souviens plus de tout ce qu'il y a eu sur les 11.
Sa mémoire virtuelle a effacé. Ouais,
c'est, ça, c'est bien la 11e, on est d'accord.
Ce que nous sommes publié chez Rue de Sèvres, signé Zep. Voici les prix de la semaine, Tom Villa. Alors, quel prix, donc, la fête des Perses?
Non, cette semaine, on va décerner le prix de la punchline de la semaine. D'accord. Et cette semaine, dans cette catégorie, les nommés sont.
Merci.
Premier nommé, Jean-Michel Macron, le père d'eux, qui, dans un entretien à l'Est républicain cette semaine, a estimé que les Français étaient ingrats à l'égard de son fils. Si je peux me permettre, je crois que le Français est ingrat et rancunier. Alors, jusque-là, Jean-Michel, c'était super d'être discret dans les médias. Il suffisait juste de le rester encore un tout petit peu.
C'est la journée Patrick Patache.
Deuxième nommé, Emmanuel Macron, qui a encore fait une démonstration de jeunesse avec sa punchline. C'est pas Gérard Majax ici, Marine Le Pen, dans le débat du second tour. C'est facile, je sais, c'est facile de se moquer des références de Macron. Surtout qu'après le débat, il a mangé un bolino, il a bu un cacolac, il a regardé la piste aux étoiles, et hop, au dodo.
Il fait chaud.
Ah ouais, ok. C'est la trilogie. Patrick, il va recevoir un relevé, sa CD, sa SEM, et faire putain, le 22.
C'est la BO.
Troisième et dernier nommé, je cite, c'est clair que si c'est moi qui décidais, j'aurais mis des grosses portions de nourriture aux garçons et des plus petites aux filles parce qu'on a besoin de plus d'énergie pour carburer. C'est ce qu'a déclaré Fouzi, candidat de Koh-Lanta. Ah bah, c'est sûr, qu'est-ce que vous croyez? C'est pas parce qu'on est en slip et qu'on se douche pas qu'on n'a pas le droit d'être misogyne? Merde, on a fait chier.
Oh, c'est difficile.
Le grand gagnant dans la catégorie de la punchline
papa
de la semaine.
Papa.
Jean-Michel Macron. Ouais, ouais. Et oui, effectivement. On a 48 heures du scrutin du second tour. On sait tout sur tous les candidats. On sait peut-être même trop de choses, d'ailleurs. C'est vrai, quand on est à savoir que Macron, il est poilu du torse. C'est que tu connais beaucoup de choses, voilà. C'est, et tu connais le nom de tous les chats de Marine Le Pen, c'est qu'il n'y a plus de grands secrets. Alors Jean-Michel Macron a déclaré cette semaine en parlant de son fils, je cite de point ouvrir les guillemets, j'ai beaucoup d'admiration pour la façon dont il dirige l'État actuellement. Je trouve qu'il faut avoir beaucoup de courage et que les Français sont très ingrats, mais ce n'est pas nouveau. Et là, j'imagine Emmanuel Macron se passer la main sur le visage. Putain, papa, tais-toi, papa. Non, c'est vrai. Il y a un Français sur deux qui compte pas voter pour son fils. Jean-Michel Macron, on l'a pas entendu en 5 ans et le père. Il décide de sortir de chez lui une semaine de l'élection avec une petite tartine de caca, comme ça. En plus, Jean-Michel Macron, il répond à l'Est républicain, alors qu'il habite Amiens, dans le Nord. Il aurait dû le sentir le piège. Alors après, c'est bien. Non, mais... Après, c'est bien, ça montre qu'on a tous un peu les mêmes papas. C'est vrai, ils font tous à un moment un truc gênant. Là, ce qu'a fait le père de Macron, c'est l'équivalent du moment où tu présentes ta première petite copine à tes parents et que ton père, pour déconner, il va chercher les photos de toi bébé, nu, en train de prendre le bain, en précisant, bah, évidemment, bon, faut prendre en compte que l'eau était froide à l'époque. Bah oui, oui, merci. Bon, après, ça m'étonnerait que dimanche, dans l'isoloir, il y a les Français qui votent Le Pen uniquement parce que Macron, père, a traité les Français d'ingrats. Mais en tout cas, si selon Jean-Mich, les Français sont ingrats, lui, rancunier, c'est sûr. Puisqu'il le dit dans l'interview, la dernière fois qu'il a vu son fils chez lui à Amiens, c'était en 2019, à l'occasion de l'inauguration de la faculté des sciences. Et d'ailleurs, quand j'ai vu passer cet article, je me suis dit, il est un peu relou, le père de Macron. Puis je me suis mis à la place de Marine Le Pen. Et elle a dû dire, bah, il est cool le père de Macron. Bah non, mais c'est vrai, en termes de papa relou et intrusif, elle a quand même le meilleur. Je pense que même qu'elle rêverait d'avoir un père dont la seule sortie un peu relou, ça sera de dire que les Français sont ingrats. La plupart des présidents français ont tous eu besoin de tuer le père, mais c'est une image, c'est philosophique. Marine Le Pen, elle, c'est sûr, elle a dû le rêver au moins une fois. Tu vois, j'ai fait un petit tour sur les profils des papas des anciens présidents, et tu sens quand même que l'image du père a pesé lourd dans cette envie de devenir président. Déjà, Emmanuel Macron, le père Jean-Michel, est neurochirurgien. Donc quand ton père est neurochirurgien... C'est compliqué de l'épater avec un métier, à part président de la République. Moi, je mets pas la barre très très haute. Je veux dire, mes futurs enfants, moi, je sais, pour m'impressionner, il suffira d'avoir un CDI. Tu vois, c'est bien. Espérons que c'est vraiment impressionné le père de Macron, parce que Sarkozy, le père, lui, président de la France, il s'en foutait à l'époque. C'est vrai, à l'élection de Nicolas Sarkozy, son père, Paul Sarkozy, avait déclaré dans VSD, j'aurais été vraiment fier si l'un de mes fils avait été président des États-Unis. Tu vois, oh, putain.
Ça calme.
Ah ouais. Alors, le père Marine Le Pen, c'est Jean-Marie Le Pen, qui a fondé le Front National en 1972, avec un monsieur qui s'appelle Pierre Bousquet, qui est un ancien Waffen-SS. Et d'un coup,
bah, si Macron père et fils, c'est Plus belle la vie, et Le Pen, c'est Game of Thrones. Hein, on va pas se le cacher. Parmi les déclarations de Jean-Marie Le Pen à propos de sa fille, il avait dit que Marine était dans, je cite de point ouvrir les guillemets, la recherche éperdue de dédiabolisation au moment où le diable devenait populaire. Tu m'étonnes qu'elle ait décidé de changer le nom du parti et qu'elle virait son père et son nom sur les affiches. D'ailleurs, elle l'a dit lundi dernier sur France Bleu qu'entre elle et son père, il y avait, je cite, 1000 différences. On n'a pas le même âge, on n'a pas eu le même parcours, on n'a pas le même vécu. Et il est un homme et je suis une femme, a-t-elle énuméré. Bah, chez moi, ça fait 4, ça fait pas 1000. Faut vraiment se méfier des enfants qui mentent aussi. Allez, bonne journée.
Wow. Merci, Tamila.
Et Tom Villa qui le 3 mai sera à Bordeaux et le 13 mai à Nantes. Et il sera pas à Toulouse après-demain. Et c'est dommage parce que la tournée des humoristes, c'est à Toulouse et c'est dimanche.
Non, j'irai voter.
Ce que nous sommes... il est majeur. Et... Ce que nous sommes, Zep Le Signe, aux éditions Rue de Sèvres, avec votre enfant comme modèle, ça veut dire beaucoup. Évidemment, sur votre inquiétude, sur l'avenir et sur l'envie entre The End que vous aviez signé et là, le espèce de cri d'alarme que vous poussez un tout petit peu sur le danger au tout numérique et à l'intelligence artificielle. Et pourtant, cette intelligence artificielle, elle a des bons côtés. Vous en servez forcément.
Bien sûr, non. Moi, je diabolise pas du tout la technologie. Je pense pas que...
C'est un petit cri d'alarme quand même que vous
poussez. Mais je trouve que c'est important de se questionner sur de quelle manière on est en train de déléguer tout à l'informatique.
Donc c'est la paresse.
Ouais, c'est une forme de paresse. Et notre cerveau apprend assez vite la paresse. Hein. Par exemple, en parlant avec Pierre Magistretti, lui me disait que sur les premières recherches qui ont été faites, si vous mettez un implant auditif à quelqu'un qui entend bien, eh ben, son audition va baisser. Oui, cerveau va baisser la force. Et si vous lui enlevez, ben après, il est à moitié sourd. En fait, le cerveau apprend à arrêter de faire des fonctions.
Tout est un muscle, en fait. C'est comme les lunettes qui permettent de corriger la vue. C'est, ben, voilà. Si on met les
livres audio. C'est un moment,
tu arrêtes de lire à cause des livres audio.
Non, parce que tu peux faire ça en faisant autre chose.
C'est bien pour les aveugles. Mais en vrai, sinon, ça n'a aucun.
Bah, en voiture, c'est super.
Moi, je lis en voiture.
Moi, je lis aussi en voiture. Oui,
j'aime bien. Sûr, okay. Mais toi, t'as une voiture autonome, ça n'a rien à voir. On prend le taxi, c'est ça?
Justement, qu'est-ce que vous faites, Zep, pour lutter contre la fainéantise de notre cerveau? Vous vous astreignez, je sais pas, à prendre des numéros de téléphone par cœur, à retenir des choses,
non,
à apprendre des poésies, des textes?
À lire.
Bah, de lire, ouais.
Déjà, oui, mais enfin,
lire,
bon, ça, oui.
Lire toujours, observer. Dessiner, c'est une observation permanente, donc,
Mais pas apprendre par cœur, par exemple. Pas faire travailler ce muscle-là.
Non, j'ai pas cette discipline-là. Et probablement, je le regretterai parce que, effectivement, ma mémoire diminue.
Est-ce que vous avez fait lire Ce que nous sommes? J'imagine que oui, à Pierre Magistretti. Et qu'en a-t-il pensé?
Oui, bien sûr. Bah, lui, il considère ça comme une fable parce qu'effectivement, c'est pas un ouvrage scientifique.
Bon, j'imagine qu'il a rien appris, mais est-ce que ça l'amuse, ça le fait rire, ou il dit c'est pas loin de, c'est pas si futuriste que ça finalement.
C'est-à-dire que je pense qu'il est dans une position où à la fois ça l'amuse qu'on aborde ces problèmes, enfin ces questions sous l'angle de la fiction, et en même temps quand on travaille dans la recherche, alors lui a pris sa retraite par rapport à ce projet. Mais
Blue Brain.
On n'a pas envie que tout à coup tout le monde se méfie de la recherche des neurosciences à cause de ça. Il faut que ça reste. Lui, il y a consacré sa vie, donc il croit très fort dans les neurosciences. Mais il peut pas ignorer qu'il y a énormément déjà de dérives. Et si le projet Human Brain a autant fasciné les gens et autant levé de fonds, parce que c'est quand même assez rare qu'il y ait autant d'argent sur un projet, c'est parce qu'on l'a pas considéré uniquement comme un projet de recherche médicale. C'est parce que les gens ont vu que ce serait vachement cool de pouvoir numériser un cerveau humain et d'y implanter ce qu'on voulait.
C'est le premier pas vers la vie éternelle grâce au numérique?
Bah, en tout cas, la mort physique humaine, on sait comment ça marche. C'est-à-dire que même si on cherche à prolonger un petit peu les gens en leur injectant toutes sortes de trucs, il y a un moment où c'est fini. La mort numérique, elle n'existe pas. Il faut la programmer. Et on parlait tout à l'heure justement de faire vivre des gens, de continuer à faire vivre des gens. Mais il y a pas très longtemps, souvenez-vous, Facebook a proposé, quand un proche décédait, de continuer à le faire vivre. C'est-à-dire que l'ordinateur a bien pigé par rapport au poste qu'il a fait, ce qu'il aimait, son profil. Donc, il peut continuer à publier des posts dans l'esprit de la personne décédée. Et ça, je trouve que c'est un truc assez... fascinant parce que c'est l'ouverture effectivement à c'est une vie numérique. On pourrait mourir et continuer à avoir une vie numérique. On pourrait tout à fait autoriser à ce que un proche continue à vivre sur Facebook. Donc et on a vu que l'ordinateur en créant un algorithme à partir de tout ce que vous avez publié dans votre vie sur les réseaux sociaux, il a un portrait vachement précis de vous, bien plus précis que vos meilleurs amis pour le faire.
C'est le fameux « Ah, il aurait aimé ci ou aimé ça
ouais, », c'est qu'on ça. Parle
à non, mais il y a des cimetières numériques aussi, il y a des pages où on peut aller rendre hommage, écrire un texte, continuer de...
C'est pas pareil.
De se recueillir, ouais, mais...
Là, c'est le mort qui parle.
Oui, voilà,
donc là, on pourrait croire que la personne existe toujours et continue à publier des trucs.
Sauf qu'on pourrait imaginer que sur cette page numérique, que je pourrais me créer, par exemple, quelqu'un l'administre à ma place et réponde aux gens qui viennent...
Cas, sauf que c'est un algorithme qui
avec
fait.
Les bots ouais,
ouais. Et faire une sorte de réseau social quasiment individuel.
Mais là
en fait.
Vous dites quelqu'un le ferait à votre place ouais. Mais en fait c'est pas quelqu'un, c'est l'ordinateur le ferait ouais, à votre ça. Place ouais. Et donc à quel moment vous allez lui faire complètement confiance,
c'est-à-dire surtout quand il va dire pour qui je vais voter au deuxième
c'est
tour
ça. Mais surtout pour qui vous auriez voté dans 150 ans
oui, parce sûr. Que
et on appellerait ça copain d'après
dépose ce que nous sommes chez Rue de Sèvres signé Zeps. C'est brillant, c'est intelligent, c'est passionnant et c'est quand même divertissant. Faut pas oublier non plus la
c'est une histoire d'amour,
la notion voilà exactement oui. La notion ludique et thriller aussi. Il y a une véritable enquête et des courses poursuites à l'intérieur de cette bande dessinée. Autre événement culturel, oui. Leïla.
On va parler des auteurs de bandes dessinées qui ont depuis peu droit à une nouvelle source de rémunération. Laquelle ? Est-ce que vous le savez, Zep, j'imagine ?
Oui, bien sûr. Bah, en fait, on est rémunéré pour aller en dédicace.
Absolument. Les dédicaces lors des festivals, le ministère de la Culture a signé un protocole qui prévoit une rémunération forfaitaire pour ces séances de dédicaces à l'occasion de festivals. Alors, on ne sait pas exactement en quoi ça, enfin, financièrement, à quoi ça va ressembler. Vous avez une idée de ça
Tu parles de la somme.
C'est plus un défraiement.
Ouais,
hein.
C'est assez symbolique.
C'est symbolique, mais je pense que pour des auteurs qui vivent comme beaucoup d'auteurs de bande dessinée à la limite de la précarité, c'est plus que symbolique.
Ouais, c'est important de leur amener un petit plus, en tout cas à l'occasion.
C'est devenu quelque chose de tellement automatique de faire des salons où on invite des auteurs qui vont dédicacer pendant des heures et des heures et faire des dessins. Et alors, au début, l'idée c'était vous faites juste un petit dessin très rapide et vous écrivez amitié à Jean-Pierre. Ouais. Mais c'est devenu un truc où les gens arrivent, ils disent voilà les photos de ma famille, mes enfants.
Une fresque,
c'est ça, j'aimerais un truc que je pourrais reproduire.
Il y a marché, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui revendent.
Ça se revend et donc les auteurs qui vivent parfois avec très très peu et qui passent leur week-end à faire ce genre de choses. Il faut savoir que sur un album vendu, on touche environ 1 €. Donc vous faites 200 dédicaces sur votre week-end, vous avez touché 200 €. C'est pas fou.
Mais qui est-ce qui va financer justement ? Parce que c'est une question qui divise dans le milieu de la BD parce que les auteurs en effet, estimer que ce travail méritait un salaire.
C'est l'État qui finance.
Les éditeurs étaient un peu sceptiques et puis les festivals disaient, nous on a des budgets quand même un peu serrés, donc comment on s'y prend? Voilà pourquoi je voulais vous demander un peu si vous aviez une idée de à quoi ressemblait cette rémunération forfaitaire.
Et puis c'est en francs suisses, en euros.
Alors c'est qu'en France, hein, ça n'existe pas. Mais non, je sais pas. Aux États-Unis, il y a un système qui, à mon avis, fonctionne un petit peu mieux, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle Artist Alley. Mm. Et quand vous êtes dans les salons, les auteurs louent une table pas très chère, ils viennent, ils se posent là et ils font des dessins à la commande.
D'accord.
On a une espèce de travail de dessinateur public, c'est-à-dire que vous venez, vous dites voilà, j'aimerais une carte d'anniversaire pour mon petit-neveu, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Et c'est tarifé, voilà. Et au moins, tout le monde s'y retrouve. Alors, voilà, moi, j'ai pas envie de faire ça, c'est pas mon métier, mais.
Enfin, c'est très tendance parce que voilà.
Ça peut permettre.
Maintenant, il y a des comptes sur Instagram où
des
pseudo-personnalités se font payer pour faire des petites vidéos de bon anniversaire mamie, bisous machin.
Ça,
donc là c'est payant, mais il suffit de voir la liste des personnalités qui acceptent de faire ça pour comprendre le niveau.
D'ailleurs 50 € Nagui, tu tapes fort.
Et Zep, en Suisse, est-ce que le statut d'auteur est bien encadré, d'auteur de bande dessinée? On parle de la précarité en France, qu'en est-il en Suisse?
En France, il y a toujours quand même une... un encadrement pour les artistes qui est, même si je pense que tout le monde aimerait avoir plus, c'est beaucoup plus fort que dans les autres pays. En Suisse, ça n'existe pas, en fait. Pendant très longtemps, j'avais un statut d'architecte, voyez, parce qu'on ne savait pas ce que c'était auteur de bande dessinée, donc on m'a mis dans la case architecte.
Demain, vous serez au Festival du Livre de Paris à 16h pour une séance dédicace. Payé, pas payé. On peut y aller, c'est gratos.
Oh, c'est gratos, okay. C'est gratos. Et avant, il y aura une rencontre avec Pierre Magistretti, justement.
Et là, par contre.
Autre question, si je vous dis Thomas Piketty ou encore Margaret Atwood, vous savez, l'auteur de La Servante Écarlate, je parle du casting de quoi ?
Un casting ?
Ouais, alors c'est pas vraiment, c'est pas un film, c'est pas un film.
Un documentaire sur l'économie.
C'est pas un documentaire.
La flamme.
Non
plus. Ou LOL.
Ça sera pour le livre, le prochain livre d'une personnalité très très engagée.
Ah, d'entretien.
Edgar Morin.
Ouais, mais il faut trouver la personnalité. Ouais, bravo.
Qui donc ?
Greta Thunberg, absolument. Elle va publier un bouquin sur la crise climatique. Elle va collaborer avec une centaine de personnalités qui sont engagées dans la cause environnementale. Ça sortira en octobre 2022. Il y aura en effet donc Margaret Atwood, Thomas Piketty et des grands spécialistes, chacun dans leur domaine, scientifiques, experts, activistes, auteurs. L'idée, c'est de créer vraiment une sorte de bréviaire sur cette crise climatique écologique d'un point de vue holistique pour amener un maximum d'informations. On le sait, votre personnage de Titeuf est engagé, vous soutenez des causes, UNICEF, l'enfance. Est-ce qu'il y a, ouais, y a une nouvelle cause aussi que vous avez envie d'aider, de défendre ? J'imagine que vous êtes très sollicité.
La cause climatique, elle est hyper intéressante, effectivement, mais il y a déjà tellement de gens...
Alors c'était le cas de Diane.
Diane, c'était un...
Ça devient un film ou une série ?
C'est toujours un peu en développement. Il y a toujours des producteurs qui sont dessus. Ça devait être une série. Là, maintenant, ça va plutôt être un film, je pense.
Très bien. Il y a une expo également intitulée Zep, l'âge d'homme, qui vous est consacrée au Festival du Livre de Paris. Ça commence aujourd'hui jusqu'au 24 avril au Grand Palais éphémère. Le principe, les visiteurs sont en immersion dans votre univers, c'est ça?
Oui, alors ce sera que sur les albums, justement ces albums plus graves, plus réalistes. Il y aura beaucoup d'originaux, des repros, des
inédits aussi.
De travail. Il y aura des inédits, ouais.
Et alors quelle est la différence avec Zep au-delà de Titeuf ?
Eh ben là, il y aura absolument rien sur Titeuf, rien sur cette partie de mon dessin.
Non, mais il y a deux expos, il y a Zep l'âge d'homme et Zep au-delà de Titeuf. Ou c'est la même expo?
Je pense que c'est la même.
C'est
un sous-titre.
Voilà.
Parce que là, tout coup,
j'essayais de comprendre.
Vous me posez une colle. Je me disais, il y a une deuxième expo.
C'est votre fête.
Faut vite que je dessine tout ça. Et Titeuf nous revient quand?
L'année prochaine. En fait, déjà en fin d'année. Titeuf fête ses 30 ans. C'était les 30 ans de la première publication en magazine cette année. Et le premier album est sorti en janvier 93. Donc à partir de décembre cette année jusqu'à septembre l'année prochaine, il y aura plein de trucs.
Il est né en même temps que Taratata, c'est incroyable.
C'est fou, hein.
C'est pas un signe, ça. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien entendu, déjà désolé pour notre invité, Zep, qui croyait ce matin tomber sur une bande brillante, vive, des cerveaux processeurs hyper rapides et réactifs pour échanger, et qui est malheureusement tombé sur nous, la BO surnommée la Team Minitel. Désolé pour le professionnalisme, le dépassement, le labeur, bref, toutes les valeurs lâchement délaissées par Alexis Le Rossignol qui ce matin a préféré nous lire des recettes de grand-mère. Alors, j'ai eu la direction à la pause hein, et ils ont une idée pour toi. Je ne sais pas si c'est une recette de grand-mère, ça s'appelle Pôle emploi. Je sais pas. Renseigne-toi. Désolé pour Leïla qui ce matin a semblé découvrir que Titeuf n'existait pas vraiment. Oh, bichette. Alors, chut, faut pas faire trop de bruit. Hein. Elle est en train d'apprendre 12 langues de bruit. 12 langues en 4 minutes avec le docteur Zep, le savant fou. Désolé enfin pour nos auditeurs qui ont été étonnés, déboussolés par le fait que l'on parle de cerveau d'intelligence pendant une heure et demie. Bon, perso, j'étais paumé à 11h12. Heureusement, lundi, on revient à du basique puisqu'on parlera racisme et exil fiscal avec Bernard Lavillier.
Exactement. Ouais. Les invités d'ailleurs de la semaine prochaine, oui. Thomas Ngijol, Noémie Schmitt, Alice de Langsin, le plongeur Guillaume Néry, Jean-Robert Charrier, Joël Pommerat pour la reprise de Cendrillon, théâtre de la Porte Saint-Martin. Tout ça avec Leïla et la bande au grand complet. Merci beaucoup, Zep, et surtout et bravo. Ce que nous sommes publié chez Rue de Sèvres, Zep était notre invité. Bonne journée, Zep, portez-vous
merci
bien. Lundi, donc, la bande originale reçoit Bernard Lavillier. Passez
salut,
un très bon week-end. Ouais, je vais dormir.
Vacances.